Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Lutte contre les violences basées sur le genre en RDC. La synergie congolaise des femmes défenseurs des droits humains s'engage à travailler aux côtés des autorités du pays pour faire face à ce mal. Cette structure l'a fait savoir hier à Kinshasa à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des femmes défenseurs des droits humains. Maïndombe, plus de 300 élèves du village Kambankou n'étudient plus depuis quelques jours. En cause, leur école a été détruite suite à une pluie diluvienne. On signale aussi une dizaine de ménages sans abri. La société civile locale lance un SOS au gouvernement et aux bonnes volontés en faveur des sinistrés. Et puis, l'invité de ce matin, Hassani Trésor, superviseur marketing chez Vodacom Maniema, il nous parle du projet Je suis Cap de la Fondation Vodacom. Il s'agit d'un projet en faveur des femmes en situation de handicap. Madame, Messieurs, bonjour. La synergie congolaise des femmes défenseurs des droits humains s'engage à travailler côte à côte avec les autorités de la RDC pour faire face aux violences basées sur le genre dans le pays. Déclaration faite hier à Kinshasa par la coordonnatrice nationale de cette synergie. C'était à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des femmes défenseurs des droits humains, journée qui coïncide avec la campagne mondiale des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes, qui a pour thème vers 30 ans de la déclaration et du programme d'action de Beijing, s'unir pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. À cet effet, la CICOFEDH, en partenariat avec le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, a organisé une journée d'information sur le rôle des femmes défenseurs des droits humains et sur quelques instruments juridiques les protégeant. On écoute à ce sujet Madame Desiderata Foura Boji, coordonnatrice nationale de cette synergie. Elle est au micro de Jean-Désiré Kanyama.
Nous sommes face à une crise humanitaire, une crise d'insécurité à l'est de la RDC. Il est vraiment opportun que les femmes défenseurs des droits humains soient outillées par l'information, la formation, surtout les instruments juridiques qu'on nous a distribués vont nous permettre encore une fois de consolider notre travail comme la résolution 1325, la déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres résolutions qui nous permettent de mener notre lutte, mais une lutte en collaboration avec les autorités étatiques, puisque comme vous le savez, ce sont les autorités qui sont les premiers défenseurs des droits de la population. Donc aujourd'hui, nous avons pris la résolution d'aller contacter les autorités, de faire connaître notre synergie et de collaborer avec les autorités de notre pays pour qu'ensemble nous puissions voir comment améliorer la situation des droits humains en RDC et particulièrement des droits des femmes, surtout les femmes qui sont en milieu de conflits.
Notez que cette journée a également coïncidé avec la sortie officielle de la Synergie congolaise des femmes défenseurs des droits humains, structure composée d'une vingtaine de femmes responsables des associations et des réseaux qui militent pour la promotion et la protection des droits humains en RDC. Par ailleurs, l'accès à la justice quand on est victime de violations de ses droits, c'est l'un des soucis auxquels le projet Accès à la justice de Alerte internationale vient répondre. Les gouverneurs du Nord et du Sud Kivu ont clôturé hier une activité qui consistait à évaluer ce qui a été fait et prévoir les activités à venir. L'activité s'est tenue à l'hôtel Begonias de Bukavu, le compte-rendu de Rachel Kiesé.
En prélude des activités de l'année 2025, le projet Ouakibi Lamipaka entendait justice sans frontières et dans le souci de rencontrer les vrais problèmes de la population en matière de justice, il était important pour Alerte internationale de mettre autour d'une même table les dirigeants de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Maître John Kazimbe, chargé principal du projet au sein de Alerte internationale, revient sur ce bilan.
Et d'abord, ce sont les activités de renforcement de la confiance de la population vis-à-vis des autorités. Dans le but et de supprimer les barrières existantes entre le justiciable et les acteurs de la justice. Il y a aussi des activités d'assistance judiciaire gratuite pour les personnes qui sont vulnérables, qui sont sans possibilité de se payer un avocat. Eh bien, nous récupérons matin, midi, soir leurs dossiers. Plus de 300 dossiers ont été traités. C'est le projet qui a payé et les honoraires des avocats et les frais de justice. Au-delà de tout ça, nous nous sommes concentrés aux activités de cartographie des lieux de détention, une affaire de 44 cachots et amigos, dans lesquels on a identifié toutes les personnes détenues de manière irrégulière. Elles ont ont été libérés à l'immédiat par des magistrats.
Le projet est mis en place dans les deux provinces pour une durée de 4 ans, de 2022 à 2026, et vise l'amélioration de l'accès à la justice pour la paix et la stabilité dans la région de Grand Lac. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Nord Kivu, dans le territoire de Lubero, plusieurs localités du groupement de Muola, situées dans la chefferie des Bassois, sont désertées par leurs habitants depuis environ 2 mois. Cette situation fait suite à l'intensification des affrontements entre des groupes armés locaux et les FARDC. Toutes les activités sont paralysées, notamment les écoles qui n'ont pas ouvert leurs portes depuis la rentrée scolaire. Un enseignant de la région de Mabambi et Kalundo, qui témoigne sous anonymat, appelle à l'intervention des autorités pour sécuriser la zone et permettre la reprise des cours. Il est joint par Martial Papi Mukeba.
Ça fait 3 ans que les Maïmaï occupent ces milieux. Alors, à date du 29, les militaires FRDC sont arrivés dans notre milieu pour chasser ces Maïmaï. Craignant les coups de balles, les villages étaient devenus déserts. Les villages de Mabambi à Kalundo, tout ce trosseau-là est vraiment vide, vide de population. Toutes les activités sont paralysées. Pas d'église, pas d'école. Nous vivons vraiment une vie difficile ici. Nous demandons à nos autorités de nous aider si possible pourvu qu'on observe au moins une calmie afin que les écoles puissent recommencer. Nous regrettons beaucoup, comme moi je suis enseignant, nous regrettons beaucoup parce que depuis la grève jusqu'aujourd'hui dans cette région, il n'y a pas jusque-là d'école ouverte. C'est vraiment dommage. Nous supplions les autorités d'intervenir rapidement.
Direction province de Maïndombe, je vous l'ai dit dans les titres, plus de 300 élèves de l'Institut Monkana 2 du village Kambankou n'étudient plus depuis quelques jours. Pour cause, leur école a été détruite à la suite d'une pluie diluvienne qui s'est abattue lundi dernier sur cette partie du territoire de Kwamout. La société civile qui livre l'information indique que cette pluie accompagnée d'un vent violent a aussi laissé une dizaine de ménages sans abri. Bel Vangia, président de la société civile de Kambankou, lance un SOS au gouvernement et aux personnes de bonne volonté en faveur de ses élèves et de ses ménages sinistrés. Le récit de Irène Boma.
D'après la société civile de Kabankou, la pluie qui s'est abattue sur ces villages situés sur la RN17 à 25 km de la ville de Bandundu a occasionné des dégâts matériels importants. Bel Vangia, président de cette structure, parle notamment du bâtiment de l'Institut Monkanade qui est complètement détruit. Du coup, plus de 300 élèves de cette école publique sont privés de cours car ils n'ont plus de bâtiment. Outre cet établissement scolaire, Bel Vangia indique que cette même pluie a aussi endommagé plus de 16 maisons d'habitation dans la même localité. Pour le moment, les ménages victimes sont sans abri et logent dans les familles d'accueil. D'autres passent nuit carrément à la belle étoile, a-t-il dit. Le président de la société civile de Kabankou, qui s'est dit préoccupé par cette situation, lance un cri d'alarme auprès des autorités compétentes et de toute personne de bonne volonté afin de trouver une solution urgente pour que ces élèves reprennent le chemin de l'école et que leur établissement scolaire soit reconstruit. Il demande aussi aux autorités de venir en aide aux familles qui ont perdu leur maison à la suite de cette catastrophe naturelle. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Dégâts de pluie aussi dans le territoire de Lubero au Nord Kivu, précisément dans la localité de Moussienene et ses environs. C'était mercredi dernier, selon Vianney Kichwamba, président du comité local de protection dans la zone de santé de Moussienene. Un homme a été emporté par les eaux de la rivière Biena en crue et son corps n'a pas été retrouvé. Par ailleurs, une source d'eau potable a été engloutie par une masse de terre, plusieurs champs dévastés par l'érosion et des cultures emportées ainsi que des bêtes. Vianney Kichwamba relate les faits. Il est joint par Guylaine Kassassia.
Les dégâts sont énormes, dit à une pluie diluvienne. À cause de cette absence de cette source, peut justement affecter la population à la diarrhée, même la fièvre typhoïde, voire même le paludisme. Comme c'est une pluie qui s'abat du jour au lendemain, déjà au marché, nous trouvons les denrées alimentaires très rares. Nous pensons que les champs ont été au fait frappés par la pluie les chèvres même emportées par les eaux, parce qu'il y a eu débordement des rivières. Et une population qui vit d'une activité dénommée agriculture et élevage, ça ramène directement la population à une pauvreté notoire. Nous avons eu à perdre une source bien réhabilitée, mais aujourd'hui frappée par une grande érosion. C'est un appel lancé aux personnes de bonne volonté de nous venir surtout en aide sur la construction de la source.
Rendons-nous au Maniema. Quelques mois après la suppression de plusieurs barrières jugées illégales et gênantes en province, certaines personnes se sont permis de remettre ces barrières. Informé, le vice-gouverneur qui assure l'intérim du gouverneur en mission a procédé à une nouvelle suppression de ces barrières et à l'arrestation des personnes qui les ont érigées illégalement après la ronde qu'il a effectuée sur la route Lokando dans le territoire de Kailo et sur la route Kibombo. Quatre personnes trouvées sur le champ illégalement ont été arrêtées et plusieurs motos saisies ont été rendus à leurs propriétaires. Florence Kizalunga, reportage.
C'est après plusieurs cris des populations que le gouvernement provincial a organisé cette tournée pour se rendre compte de la situation. Contre toute attente, le vice-gouverneur a lui-même trouvé des barrières illégales. Katisamba Makubuli Corneille.
Nous avions supprimé la majorité des barrières. Mais les gens là ont voulu encore aller réhabiliter à l'endroit où nous avions supprimé. C'est pourquoi là où on érige les barrières, en dehors des barrières qui se trouvent dans notre arrêté, ils doivent nécessairement nous informer et je ne tarderai pas d'aller encore enlever cette barrière-là.
Une annonce récite avec satisfaction par la population qui se voyait encore être tracassée à toutes ces barrières.
Nous avons vu encore des barrières retourner encore. On s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, nous voyons la présence du gouverneur qui vient de supprimer les barrières. Alors nous sommes très joyeux.
Sachez que sur 185 barrières érigées à l'époque, le gouvernement provincial n'a arrêté ni que 57. C'est pour faciliter la libre circulation des populations et de leurs biens. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À Kinshasa, les éléments de la police nationale ont démantelé tôt vendredi matin le marché pirate de Bitula dans l'espace compris entre les avenues Ex-Bokassa et Kasavubu. Les vendeuses et vendeurs disent avoir été surpris de trouver leurs étals en train d'être brûlés. Ils récusent cette décision de l'autorité urbaine prise selon eux sans qu'un espace approprié leur soit trouvé en vue de continuer leurs affaires. Reportage de Blaise Ndongalamenda.
Des témoins affirment que cette opération de casse et de mise en fait des étals du marché Bitula a démarré déjà aux environs de 5h du matin. Selon les mêmes sources, de nombreux marchands, dessinés des affaires, ont trouvé des éléments de la police à l'œuvre sans avoir fourni des explications claires. L'une d'elles regrette que ces éléments en uniforme aient opéré alors que les autorités provinciales de la ville leur avaient promis de poursuivre leurs activités en attendant la finalisation des travaux de construction du grand marché central.
Nous vendons aux alentours du marché central. Nous sommes venus trouver nos tables et autres biens saccagés et cassés alors que nous avons été de garpie du grand marché central. On nous a demandé de se faufiler aux alentours du marché en attendant la finition des travaux. Papa gouverneur nous avait assuré de continuer de vendre en attendant de nous trouver un espace approprié. Nous sommes malmenés dans le pays étranger, voire dans notre propre pays. Que le chef de l'État puisse nous trouver une solution.
Certains de ces marchands disent avoir perdu leurs marchandises au cours des désordres et a accompagné cette opération de casse. Des sources proches de l'hôtel de ville de Kinshasa rapportent que plusieurs mises en garde ont été lancées contre les vendeuses et vendeurs de ces marchés de la ville.
Et puis, le gouverneur Daniel Bumba plaide pour une inclusion de la ville province de Kinshasa dans le programme de développement local des 145 territoires. Il a fait cette déclaration à la fin de la 11e conférence des gouverneurs des provinces assises tenue à Kalemi du mercredi 27 au vendredi 29 novembre dans la province du Tanganyika. Selon le patron de la ville de Kinshasa, il est opportun d'inclure la capitale congolaise dans ce projet car elle attire une masse des populations. Daniel Bumba a notamment insister sur la nécessité de réhabiliter les infrastructures qui permettent la connexion de Kinshasa avec d'autres provinces du pays.
Actualité internationale.
Le bilan du glissement de terrain qui a frappé l'Ouganda cette semaine continue de s'alourdir. En effet, dans la nuit de mercredi à jeudi, des fortes pluies ont provoqué l'effondrement de plusieurs villages dans le district de Bulambuli, 280 km à l'est de la capitale Kampala. Les autorités confirment la mort d'au moins 20 personnes, bien que des sources sur place parlent d'un nombre de victimes plus élevé et plus de 100 personnes restent portées disparues.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Hassani Trésor, superviseur marketing chez Vodacom Maniema. Il nous parle du projet Je suis Cap de la fondation Vodacom Maniema, projet en faveur des femmes en situation de handicap. Dans cet entretien avec Florence Kizalunga, il explique l'évolution et le fonctionnement de ce projet ainsi que son avantage pour les bénéficiaires. Suivez.
Monsieur Trésor Hassani, bonjour.
Bonjour madame.
La fondation Vodacom, il y a près d'une année, a lancé le projet Je suis Cap, qui veut dire Je suis capable dans la province du Maniema. Comment évoluent ces projets?
Ah, merci beaucoup, le projet évolue très bien. Donc à ce jour, la fondation a formé 1100 femmes vivant avec un handicap à travers le pays. Parmi celles-ci, 570 ont déjà commencé à travailler comme agent MPSA. Donc cela démontre notre engagement non seulement à former, mais aussi à intégrer les femmes handicapées dans les activités économiques durables en améliorant ainsi leur autonomie financière. Et au Maniema, nous avons formé 100 femmes.
Quel type de femmes que vous avez formées?
Oui, en fait, nous avons formé les femmes vivant avec handicap. Nous avons pris les femmes des handicaps moteurs, les femmes souffrant de l'albinisme et ensuite les femmes naines.
Alors, c'est quoi l'objectif du projet Je suis Cap?
Oui, merci beaucoup, madame. L'objectif du projet Je suis Cap ici, c'est d'améliorer l'autonomie financière de ces femmes. Donc, comme vous pouvez le constater, ces femmes ont réalisé des transactions évaluées à plus de 1,6 million de dollars. Et chaque trimestre, celles qui performent reçoivent des formations supplémentaires pour leur permettre d'améliorer encore leurs performances.
En long, à moyen et à court terme, qu'est-ce que la fondation compte faire avec ces femmes?
Oui, à court terme, d'abord, le projet a déjà démontré des résultats positifs en formant un grand nombre de femmes et en leur permettant de démarrer leur propre activité économique. À moyen terme, nous anticipons une augmentation significative de leur autonomie financière et une amélioration de leur qualité de vie. À long terme, nous espérons augmenter le nombre dans toutes les régions afin de créer une transformation sociale et économique durable.
Monsieur Trésor, la fondation a appuyé ces femmes bénéficiaires et pour qu'elles excellent encore dans ces modèles d'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous comptez?
Au fait, en renforçant d'abord leur business par les formations continues et en établissant des partenariats avec les institutions de microfinance afin de leur donner la possibilité de bénéficier des crédits pour accroître leur business. Donc cela leur permettra non seulement de stabiliser leurs activités, mais aussi de le développer en créant ainsi un cycle de croissance économique.
Vous avez parlé d'une centaine de femmes qui ont bénéficié de l'appui de ces projets, mais il y a parmi ces femmes celles qui disent qu'elles n'ont pas encore reçu cet appui, c'est-à-dire vous avez donné les fonds seulement à 49. Quel est l'essor des autres femmes?
Oui, madame, en fait, nous sommes en train d'aller progressivement jusqu'à clôturer avec toutes les femmes. Donc, toutes les femmes seront bénéficiaires de ce projet parce qu'elles ont bénéficié de la formation. Donc, elles n'ont pas à s'inquiéter. Donc, elles seront toutes servies. Et nous y travaillons déjà. Et d'ici là, vous pourrez revenir vers elles et elles vous diront qu'elles ont bénéficié de leurs kits commerciaux ainsi que du fonds de démarrage des activités.
Quand vous parlez des kits commerciaux et des fonds de démarrage, on peut avoir une idée?
Oui, bien sûr. Au fait, nous leur remettons un téléphone, un smartphone, une tablette, une chaise, un parasoleil, une chasuble avec un fonds de démarrage évalué à 275 dollars américains.
Et à chaque fin du mois, elles sont censées rembourser?
Non. En fait, l'objectif ici, c'est d'autonomiser ces femmes-là. Donc, à partir du moment où elles bénéficient de ces fonds de démarrage, donc, ils ne sont pas remboursables, ces fonds.
Alors, quels sont les projets futurs de la fondation dans la province du Maniema?
Oui, merci beaucoup. Nous avons plusieurs projets visant à améliorer l'éducation, la santé, le bien-être, ainsi que l'inclusion. Notre objectif ici est de créer un environnement où chaque individu, indépendamment de ses capacités, a la possibilité de réaliser son potentiel et de contribuer positivement à la société.
En donnant, sans vous attendre, quelque chose, cela ne constitue pas un manque à gagner pour la fondation?
Non, même pas. Cela ne constitue pas un manque à gagner pour la fondation. Au contraire, la fondation est du côté alors de ces femmes-là afin d'assurer leur autonomie financière.
Aussi, M. Trésor, quelle est la durée de ces projets?
La première phase du projet a concerné les formations et les lancements des activités commerciales des femmes. La suite du projet inclut les bourses d'études pour les enfants vivant avec handicap l'équipement des centres de formation pour les personnes vivant avec handicap, des partenariats pour toucher un plus grand nombre de personnes vivant avec handicap. Donc, en fait, ces initiatives ont pour but de créer un impact durable et à long terme en offrant des opportunités éducatives et en soutenant les structures locales. En fait, nous travaillons sur plusieurs projets visant à améliorer l'éducation, la santé, le bien-être et l'inclusion. Donc, notre objectif ici est de créer un environnement où chaque individu, indépendamment de ses capacités, a la possibilité de réaliser son potentiel et de contribuer positivement à la société.
Monsieur Trésor Hassani, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Notre invité est superviseur marketing chez Vodacom Manima. Il répondait aux questions de Florence Kizalunga. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Jude Mister Bilanda, Jean-Claude Ciala à la mise en onde. Merci de rester des nôtres.